Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 2 de CPQTA, c'est permis canté aigri, mon petit podcast perso que j'aime bien faire mais que je fais pas souvent puisque le dernier épisode, donc le premier c'était là, c'était il y a longtemps déjà, mais je préfère choper le bon moment pour enregistrer. Ah, cette fois-ci je vais pas louper, je vais me présenter d'abord. Salut, je suis Kenton, je fais Techcraft et d'autres petites bricoles sur le net. Et CPQTA, donc c'est permis quand t'es aigri, ça va être un peu mon fourre-tout, les choses sympas, les choses pas sympas que j'ai à dire. J'avais besoin d'un format, bah là c'est le moment. Bon, voilà, il y en a un. C'est ici, on va parler dans cet épisode 2. Donc il n'y aura pas question d'aigreur, hein, même si je suis aigri, là il n'y aura pas d'aigreur. Au contraire, parce que ça fait 2 ans, on va dire, que je joue avec le sujet et que j'en parle dans Techcraft. Mais je me dis peut-être qu'ici, il y aura une autre cible, donc on va en parler ici. Je voudrais vous parler de self-hosting. Le self-hosting, sacré sujet de nos jours. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un sujet qui va être un peu plus technique qu'une simple conversation comme ça. Le self-hosting, c'est le fait d'héberger les services qu'on utilise habituellement à la maison. Je m'explique. Par exemple, vous utilisez peut-être Netflix, Disney+, ou je sais pas quoi. Ben, l'équivalent en auto-hébergement, oui, parce que self-hosting en français, c'est auto-hébergement, ce serait de mettre un service chez soi à domicile qui permette de regarder en fait des vidéos. Et je parle pas d'aller chercher un fichier dans un dossier, mais avec l'interface web qui va bien et tout ce qu'il faut. Voilà. Et en plus, l'intérêt aussi, même si c'est hébergé à la maison, c'est de pouvoir y accéder à distance. Quand je dis à distance, c'est, je sais pas, vous êtes chez vos parents le dimanche pour le repas de famille et vous vous dites « Ah tiens, t'as pas vu les photos de notre dernier voyage ?» Plutôt que de sortir le téléphone et montrer sur un tout petit écran, vous pourriez dire « Bah tiens, je te montre sur l'ordinateur familial et tu te connectes à distance sur le truc et puis tu as accès à tes photos qui sont hébergées à la maison. » Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple encore? Peut-être pas parler de domotique, ça c'est un sujet qu'on pourra faire à part, mais la domotique s'héberge à la maison. Donc ouais, il y a ça, il y a la vidéo, il y a la photo, on reviendra un petit peu après dessus, il y a des gestionnaires de mots de passe, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut héberger à la maison. On pourrait même, on l'a vu dans un épisode de Techcraft, héberger ses notes à la maison, un peu comme on pourrait faire avec un logiciel de notes habituel. Hein. Enfin bon, avant de rentrer dans le sujet des choses qu'on peut héberger chez soi à la maison et qui sont plutôt pratiques à héberger à la maison, enfin qui sont plutôt intéressantes d'héberger à la maison, on va parler des avantages et des inconvénients. Justement, c'est un peu ce qui induit le fait qu'on passe à l'auto-hébergement. Les avantages, eh bien, c'est qu'on reste maître de ses données, puisqu'au final on ne va pas poster les données sur le net, sur un service américain qui a Patriot Act et qui pourrait regarder. Je sais pas, un exemple, tu héberges tes photos, ben, là elles sont à la maison. À moins que le service que tu vas utiliser, on reviendra après sur les différents trucs qu'on peut mettre en place pour regarder ces photos, soit on va dire malsain de base, ben, s'il est cool, s'il est bien, s'il est propre, eh ben, il n'y aura pas de souci, tes photos resteront toujours chez toi et elles sont nickel. Donc il y a un contrôle déjà des données, elles ne sont pas sur un serveur américain. Ouf, je dis américain, mais ça peut être n'importe quelle marque, hein. Enfin n'importe quelle marque, n'importe quel pays qui a des pratiques trop regardantes sur les données qu'elle stocke. Tu as aussi le fait que tu gardes le contrôle de tes données. Alors, c'est un peu un point qui est similaire au premier, mais un petit peu différent dans le sens où tes données, tu sais où est-ce qu'elles sont, tu sais qu'elles vont pas bouger, et surtout, comment traduire ça? Tu sais que demain, elles seront toujours là si tu as bien fait les choses. Parce que on l'a vu avec différents services qui, du jour au lendemain, ont fermé sur le net. Le service, il peut être rendu indisponible comme ça d'un coup. Et ben, toi, tu te retrouves un peu emmerdé à vouloir faire de l'extraction de données, machin, à récupérer tout pour les mettre ailleurs. Alors que là, quand c'est toi qui l'héberge, c'est toi qui l'héberge. Donc, tu sais quand tu vas allumer ou éteindre le service. Et tant que le service te convient, tu le laisses allumer et puis voilà, quoi. Ah, j'avais pris des notes que bien sûr je n'ai pas devant les yeux, sinon ce serait trop drôle, avec d'autres avantages que j'ai pas, bon, peut-être Peut-être au pire, on pourra en discuter. Hein. Vous venez me contacter, on en discute. Bon, il y a les inconvénients. Les inconvénients, il y en a, forcément. Premier inconvénient, il faut maintenir le système. Il faut maintenir le système, c'est-à-dire que ça se met à jour. Et autant sur le net, quand vous stockez des choses sur le net, ben, pas besoin de les mettre à jour, hein, puisque c'est fait automatiquement par la marque, entre guillemets, qui sera derrière. Tu vois, un Netflix, par exemple, il va jamais te demander de mettre à jour quelque chose dans ton navigateur pour regarder ses vidéos. Ou alors, c'est cas extrême, c'est que ton navigateur, il a 10 ans d'ancienneté. Mais je veux dire, quand eux, ils ont une mise à jour à faire sur un codec ou autre chose, c'est de leur côté, tout se passe de leur côté, tu n'as aucune maintenance à faire. Alors que là, si tu héberges à la maison, eh ben, c'est toi qui es en charge de ce côté technique. Et puis même, j'aurais dû dire en premier point, c'est il faut avoir le... Il faut l'installer soi-même. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des PC, des Mac ou autre chose, c'est pas juste un .exe ou un .dmg ou un .pkg où on fait suivant, suivant, suivant. Généralement, ça implique le fait de devoir mettre une machine en place. Alors, j'aurais tendance à dire que la voie qui est utilisée principalement aujourd'hui, c'est Linux et Docker. Mais on pourrait en faire un truc, enfin quoi que non, on va peut-être pas faire un truc très particulier sur Docker. Enfin, je ferai jamais d'épisode sur Docker parce que beaucoup trop technique, mais on va dire que c'est un je peux pas dire que c'est un installeur. C'est un gestionnaire de conteneurs. Et dans ces conteneurs, en fait, il y a déjà tout qui est fait pour que ça marche à peu près vite et bien, on va dire. Ça demande quand même un bagage technique, mais voilà. Mais qui s'apprend vite, hein, pour la base. Je ne te parle pas de faire des choses très compliquées, mais pour la base, ça marche très très bien, Docker. Donc voilà, ça demande de l'installer, donc ça demande de savoir utiliser un petit peu les différents OS qui pourraient être nécessaires pour installer le service. Donc généralement Linux, bien que j'ai des choses qui tournent sur Windows Server, moi pour ma part. Mais voilà. C'est très drôle, je viens de croiser un collègue sur l'autoroute, le truc improbable. Parce qu'on n'est pas censé du tout aller dans la même direction, c'est trop drôle, bref. Donc Docker, je disais, l'installer soi-même, gérer sa sécurité. Parce qu'effectivement, quand vous choisissez le service à mettre en place, bah, il faut s'assurer que ce service n'ait pas de mauvaises intentions derrière, parce que vous le payez ou que ça soit gratuit, il pourrait très bien y avoir des lignes de code qui soient malsaines et qui copient vos données ailleurs. C'est pour ça que l'open source, généralement, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que qui dit open source dit plein de gens vont regarder le code. Et même si toi, moi, machin, j'ai pas la capacité d'interpréter un code, c'est pas mon boulot, hein, c'est pas mon domaine, eh ben je sais qu'il y aura une communauté qui l'aura faite puisqu'il le développe, le produit. Ils sont des milliers, voire des fois, pour certains trucs, des millions à développer. Et au moins à participer, en tout cas, au développement. Et s'il y avait quelque chose de sale, ça serait vu, je pense, assez rapidement. On l'a vu sur certains trucs open source qui, bizarrement, du jour au lendemain, ont été modifiés par l'État américain. Très rapidement, la communauté l'a remarqué et a vu ça et a signalé ça au grand public. Donc, ça, c'est un point qui est cool. Et puis, point négatif, ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc, ouais, enfin, on a l'impression qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs parce que j'ai pas donné beaucoup d'arguments positifs. Mais il y a quand même de gros avantages d'avoir tout à la maison. Rien que pour la sécurité, la confidentialité des données, garder son contenu pour soi et pas le distribuer à n'importe qui, ça je trouve que c'est génial. Alors je vais donner quelques exemples de ce que moi j'héberge chez moi à la maison. Un truc que j'aime beaucoup et qui est bien pratique, mais qui demande une attention particulière à être maintenu à jour et au niveau de la sécu, c'est le gestionnaire de mots de passe. Il y a beaucoup qui gardent leur mot de passe sur des petits papiers, là, c'est... Oui, bien sûr, monsieur, lui, il tient pas à sa vie. Un gestionnaire de mot de passe, c'est toujours important d'en avoir, parce qu'écrire son mot de passe dans un cahier qu'on a devant l'ordinateur, ça n'a strictement aucun intérêt sécuritaire et pratique, parce que quand t'es pas devant l'ordi, bah, t'as plus tes mots de passe, et si quelqu'un te cambriole, bah, il a tes mots de passe. Alors, vous allez me dire, oui, il y a les petits gestionnaires maintenant qu'il y a dans les téléphones et tout, mais c'est pas assez complet, pas assez complet. Ça reste très succinct, et voilà. Donc moi j'héberge un Vaultvarden à la maison qui est un équivalent de Bitwarden. Bitwarden c'est un service qui est connu, très largement répandu sur le net aussi, qui propose des services payants mais qui propose aussi d'auto-héberger. Donc gratuitement on peut auto-héberger son propre truc puisqu'il est open source et voilà. Il y a plein de fonctions sympas. le fait de l'héberger à la maison fait que je garde le contrôle de mon truc, mais par contre, j'ai l'obligation de faire des backups et tout, enfin des sauvegardes. Si je les fais pas et que je perds mes données, c'est pour ma pomme, il n'y a personne qui pourra venir me les récupérer. Il n'y a pas un service derrière, un service après-vente ou quoi que ce soit. Si j'auto-héberge, c'est à moi de garder la sécurité des données. Donc ça, c'est pratique puisque ça se relie aussi avec le téléphone, avec les différents navigateurs à distance. Hein. Il n'y a aucun problème quand c'est bien mis en place, c'est-à-dire avec accès externe et sécurisé, je précise. Ça marche super bien. Hein. Mes mots de passe, je les ai partout. J'en retiens pas beaucoup. J'en retiens surtout un, le mot de passe master qui est énorme et machin qu'il faut prévoir. Un truc très gros pour être sûr que tout va bien. Mais ça marche top. Hein. Donc je vous l'ai dit avant aussi, j'héberge un truc type Netflix. Donc ça s'appelle Jellyfin. Ça permet de stocker ses vidéos et tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des multi-utilisateurs. C'est-à-dire que vous pourriez très bien dire, bah, mon fils, ma fille de je sais pas, 8-10 ans, il regarde des dessins animés, bah, je vais lui mettre ça dans son catalogue, moi j'ai pas envie de voir ses dessins animés, bah, je le mets pas dans le mien, enfin voilà, c'est granulaire, c'est bien foutu, c'est bien prévu pour marcher dans tous les sens, hein. ça c'est nickel. J'en ai parlé aussi dans Techcraft, j'héberge ma musique à la maison, mes copies de CD de l'époque, pour y accéder, plutôt que les stocker dans un téléphone, je les stocke chez moi à la maison et j'ai accès à distance en streaming, hein, un peu comme Spotify ou Apple Music, ou ce que tu veux comme service, hein, c'est pareil. Il y a plein de services comme ça qui... Ah ouais, bien sûr, sors-moi devant le nez. T'as raison, monsieur, sors-moi devant le nez. Je vais passer en mode aigreur, tu vas rien comprendre, monsieur. Il y a un autre service que j'ai utilisé fut un temps, mais étant tout seul à la maison, ça n'a plus lieu d'être utilisé. c'est un truc assez fou quand on en parle, parce qu'on se dit, mais ça va trop loin, le délire. C'est un système de gestion de stock et de frigo. Ça s'appelle Grossi, alors c'est pas une blague, hein, parce que c'est qui Grossy et pas Grossi comme quelqu'un qui servirait trop dans le frigo. Magnifique, une cigogne vient de passer devant ma voiture. Normal, ouais, mais elle est jolie. Ouais, bref, ça s'appelle Grossi, donc Grossi, je sais pas comment tu le prononces, c'est anglais. Ça marche super bien, ça s'héberge aussi à la maison. Et ça fait la gestion de ton stock de frigo et autour, tu vois, tu vas pouvoir dire, bah, il me reste plus que... je sais pas moi, un pot de confiture, nanana. Enfin, on fait de la gestion de stock et ça permet d'avoir une liste de courses auto-générée. Parce que, un exemple bidon, on va dire, je sais pas moi, j'ai 7 rouleaux de papier toilette qui me restent. À chaque fois que je vais en terminer un, je vais appuyer sur Grossi, sur l'interface, en disant un de moins. Et on va pouvoir mettre un seuil d'alerte dès qu'il en reste plus que 3. Je vais dire une connerie. Hein. Eh ben, ça te rajoute l'article dans ta liste de courses. Alors ça, c'est très bien hein, quand tu es en famille et tout et que tu gères des stocks de, je sais pas moi, de bouts de fromage, de viande, de ce que tu veux, de liquide vaisselle et tout. Tu peux tout mettre dedans hein, au final, même si c'est adapté. Enfin, c'est orienté stock de la maison, style cuisine, salle de bain, machin. Mais tu pourrais, je sais pas, tu veux gérer tes disques à poncer, bah, tu pourrais les mettre dedans aussi, hein, c'est pas le problème. C'est de la gestion de stock orientée cuisine. Et ce qui est bien, donc comme je disais, dès que tu mets tes alertes, ça te rajoute ça sur ta liste de courses. Et le truc qui est super sympa, c'est que donc tu crées toi-même tes fiches par article, hein, puisqu'il ne peut pas contenir tous les articles qui existent dans le monde. Tu crées tes fiches une fois pour toutes. Mais tu peux aussi lui rentrer un code barre, associer un code barre, une petite photo avec le code barre, que donc tu fais avec ton téléphone. Et donc, quand tu fais tes courses, tu vas dire, pas te dire, oh mince, j'ai plein d'articles et tout, ça va être chiant à rentrer. Non, non, là, tu les scannes avec ton téléphone, tu scannes le code barre au sein de l'appli Grossi et ça rajoute dans ton stock. Et voilà, c'est un peu... Enfin, je veux dire, tu le fais déjà dans le caddie, autant tu peux le faire à la maison. Donc ça marche bien. C'est vraiment super et pratique. Alors c'est bien quand t'es plusieurs à la maison, quand t'es tout seul, au bout d'un moment, tu fais plus de gestion pour rien, tu sais ce que t'as besoin, et si t'as rien, bah, tu peux t'en plaindre qu'à toi-même, c'est pas le problème. Bon, moi j'héberge ma domotique, mais j'ai dit ça, ce serait un sujet à part. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Le pire, c'est que j'ai plein de... Bah oui, j'ai un petit utilitaire de notes qui s'appelle Memos. J'en ai parlé dans Techcraft. Qui gère des notes, on va dire, très rapides. Il n'y a pas beaucoup de choses à mettre dedans. C'est pas un système de notes comme Notion ou comme Evernote ou autre chose qu'on pourra construire, hiérarchiser et tout. Là, c'est à la façon Twitter. C'est des notes sur une timeline. C'est un concept un peu particulier. J'en ai parlé dans Techcraft, je pensais que ça plairait pas trop et finalement il y en a quelques-uns qui l'utilisent, qui ont pris au jeu, donc c'est très bien.
Petit aparté, je vous rajoute ça lorsque je fais le montage, parce que j'ai oublié d'en parler, et c'est quelque chose que j'utilise assez souvent et qui est vraiment très utile. Seul petit hic, c'est qu'il est un petit peu difficile à mettre en place si vous n'avez pas de bagage technique, mais si vous prenez le temps de bien faire les choses, ça marche super. Ça s'appelle Paperless NGX. En fait, c'est un espèce de gestionnaire de documents, comme on appelle ça dans le monde pro, une GED, en fait. C'est une gestion électronique des documents. Et vous allez me dire, on s'en fout de ça un peu. Mais en fait, non, c'est vachement bien parce que vous allez pouvoir mettre tout ce qui est facture dedans. En fait, c'est numériser les factures, les quittances de loyer, les salaires, enfin, tous vos papiers, vos trucs importants, et le rentrer là-dedans. Et il y a une espèce de système de tag extrêmement puissant, il y a un système de reconnaissance de caractère, donc OCR, qui va vous permettre de reprendre directement le document à l'aide de tags ou à l'aide de mots-clés ou même en fonction de la marque qui est derrière la facture. Par exemple, je vous donne un exemple bidon, j'ai dû aller faire des réparations sur ma voiture, et sur place, le gars me dit « Ah, mais je vous ai fait un devis il y a 6 mois pour un truc qui était similaire, est-ce que vous l'avez pris avec ?» Bah non, je n'ai pas pris le devis qu'on m'a fait il y a 6 mois avec. Mais il me dit parce que moi, je ne garde pas les devis. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être va falloir qu'on refasse un check de la voiture. Et là, ça me revient. Je me dis, mais non, je l'ai stocké dans Paperless. Et donc, avec simplement en tapant le nom de la marque de ma voiture dans Paperless, j'avais tous les documents concernant ce devis que j'ai pu évidemment lui ressortir et il était content, moi aussi on n'a pas eu besoin de refaire un check de la voiture. Donc voilà, c'est un truc qui est super intéressant parce que pareil, vous pouvez aussi mettre par personne, par étiquette, par type de document, vous pouvez stocker à différents endroits, donc c'est là où c'est un peu plus technique parce qu'il faut quand même créer 2-3 bricoles, mais une fois que c'est en place, c'est vachement bien. Moi je vois par exemple, j'ai mis pas mal de choses, des factures, mon planning, par exemple, mon planning de l'année du boulot, je l'ai mis dedans, c'est facilement accessible et ainsi de suite, sachant qu'il y a une version pour téléphone, pour y accéder, donc c'est ça qui est bien, une fois que vous êtes auto-hébergé, même à distance, vous pouvez accéder avec le téléphone, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant, et je voulais rajouter ce produit, donc je vous le rappelle, Paperless NGX.
Bon voilà, après oui, j'héberge tout ce qui est photo perso là que je peux consulter à distance, tous ces trucs là voilà, ça marche hyper bien, au moins je suis tranquille, parce qu'en plus ouais, l'avantage c'est que par exemple dans le cas où on a un NAS, moi j'ai un NAS à la maison, donc un NAS c'est un appareil où on met des disques durs dedans et on peut stocker ce qu'on veut, qui est sur le réseau, donc il n'est pas dans un ordinateur proprement dit, c'est son propre appareil. L'avantage c'est que quand tu stockes tes photos, si tu as 50 Go, 200 Go, 1 Tera de photos, bah, tu vas pas payer un service en conséquence, c'est stocké à la maison, tu consultes à distance et voilà. Donc ça fait économiser, et ça c'est un des points positifs, ça te fait économiser pas mal d'argent dans le sens où tu vas plus payer ces services tous les mois, 6 euros par ci, 5 euros par là, 9,90 euros par là. Là, entre guillemets, on paye la machine sur laquelle on va mettre ça. Si c'est un NAS, parce que le NAS peut aussi faire de l'auto-hébergement, hein, y a plein de services qui tournent dedans. Ou un PC qu'on monte soi-même, moi j'ai un... J'ai un tout petit PC qui me sert pour 2-3 bricoles et qui me sert à ça. J'ai un Raspberry Pi qui tourne en mode sécurisé pour les mots de passe, par exemple, et ainsi de suite. Donc, on va payer une fois ça et après, bon, bah, on paye un peu de courant, ça c'est sûr, hein, d'électricité. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, donc c'est vraiment un truc... C'est vraiment un truc cool. Donc, je vous invite à vous renseigner sur l'auto-hébergement. C'est sûr que ça demande un petit peu de bagage technique. Il y a des communautés sur le net qui aident, hein. Même on a le Discord de TechCraft, venez on peut en discuter, hein, parce qu'on est quelques-uns au sein du Discord à faire de l'auto-hébergement et on adore ça, donc n'hésitez pas à venir à en parler parce que ça vaut le coup de s'y pencher pour certains trucs, surtout dans le climat actuel où on entend du vol de données, des services qui ferment ou qui deviennent payants du jour au lendemain. Je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus et on va pas se le cacher. On a tous maintenant chez soi des vieux PC qui traînent. Alors des vieux PC qui traînent et on se dit « Oh, bah, il va finir la casse, oh, il y a encore les photos dessus, machin, je sais pas quoi en faire. Pas assez puissant pour être Windows 10 ou 11 ou 12 ou 13 ou ce que tu veux, mais il n'est pas si vieux que ça. Enfin, il tourne toujours bien et ainsi de suite. » Et bien là, c'est une superbe occasion de recycler le matériel là et de faire de l'auto-hébergement dessus. Hein. On a tous des vieux PC qui traînent dans un coin là maintenant avec l'informatique et envoyer les foyers depuis 20 ans, forcément, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à gérer ça. Moi, je vais bientôt arriver à mon lieu de destination. dans le nord-est de la France, Peltre, petite commune très très jolie. Et voilà, je sais pas pourquoi vous raconte ça, vous en foutez. Mais voilà, j'arrive à destination. Donc on va s'arrêter ici. Voilà, c'était Kenton, je voulais vous parler d'auto-hébergement. C'était moins aigri que le titre du podcast Laisse Présager. Enfin, que le nom du podcast Laisse Présager. Mais il y aura de l'aigreur. Je suis aigre, donc forcément il y a un moment où ça viendra. Mais bon, pour l'instant, ça reste dans la bonne humeur. Allez, je vais vous laisser. Vous pouvez aller sur, si vous voulez plus d'infos sur ce que je fais, vous pouvez aller sur kenton.fr, tout simplement, Q-U-N-T-O-N.fr. Et puis, n'hésitez pas à venir me dire bonjour sur Twitter si vous avez écouté cet épisode et ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. À plus. Bye bye.